Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pouvez retrouver les 5 derniers opus sur la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler des nouvelles de la fin du monde, le rapport du GIEC qui vient de tomber nous donne quelques années, 3 en l'occurrence, pour inverser la tendance en respectant les accords de Paris. Mais oui, souvenez-vous, le monde était sauvé par les accords de Paris arrachés lors d'une grand-messe qui se renouvelle chaque année, la COP. Là, ce coup-ci, c'était la COP 21 à Paris en 2015. Ça fait 7 ans déjà. Les autorités du PS avaient fait arrêter les écolos qui voulaient manifester comme fichés S. Ah bah oui, ouais, faut faire joli quand même. Eh ben, pour que la photo soit bonne, il n'y avait pas trop de manifestants. Ça, c'était bien. 7 ans plus tard, la France a été plusieurs fois condamnée par des tribunaux français pour non-respect des accords en question. C'est magnifique. Et ça marche comme ça. Et les émissions de gaz à effet de serre, l'un des éléments de la catastrophe annoncée, hein, pas le seul, non, c'est l'un des éléments, ne diminue plus. Ben non, parce qu'il faut de la croissance du PIB, donc il faut produire. Produire quoi? Mais n'importe quoi, mon gars. Produit n'importe quoi, vend n'importe quoi. Tiens, ben là, en ce moment, on vend des éléments fictifs, virtuels, dans le métaverse. Pourquoi faire? Ben pour vendre. T'es con ou quoi? Donc la croissance, encore la croissance. Eh ben bientôt, il faudra le savoir quand même, la croissance et l'écologie, ça va pas ensemble. Non, amis productivistes, à partir du moment où vous voulez produire le plus possible, à partir du moment où vous voulez faire le plus de profit possible, à partir du moment où vous voulez prendre toutes les parts de marché, et donc en l'occurrence produire comme si 100% des gens allaient acheter vos produits, et bien sûr vous n'en vendez pas 100%, donc ben, vous mettez ça après chez les faillitaires, ces entreprises qui vont récupérer les produits et les vendre moins cher, ou alors bah, carrément au pilon, balancer à la poubelle. Eh ouais, ça se passe comme ça dans le monde capitaliste. Donc si vous êtes productiviste, eh ben, dites-vous que la fin du monde, vous l'aurez bien voulu. Si vous ne l'êtes pas, eh ben, va peut-être falloir faire en sorte que justement les productivistes et les capitalistes ne soient plus au pouvoir. Le GIEC nous dit que non. Hein, l'écologie, ça peut pas être pour plus tard, ça peut pas être après la croissance du PIB, parce que plus tard, ben c'est la fin. Alors il faudrait peut-être devenir conscient de notre part à nous, les humains, dans le siège de la branche sur laquelle nous sommes assis. Le but de nos vies n'est pas de devenir des consommateurs tellement heureux d'avoir du pouvoir d'achat. Non, ce modèle sociétal est complètement bidon. Il a été inventé par les libéraux pour nous obliger à gagner notre vie grâce aux emplois qu'ils veulent bien nous donner, et ben, par compensation, puisqu'on est obligé de passer beaucoup de temps à faire des trucs qu'on n'a pas forcément choisi, eh ben, il y a l'achat plaisir. Ouais, vous êtes pas sérieux non plus. D'autres sociétés sont possibles. Tiens, on en parle dans quelques minutes avec un certain GB. Et ça me permet de vous donner l'information là maintenant. Le samedi 9 avril à 14h30 à Le Mans, place de la préfecture, une marche pour le futur, comme dans plus de 80 villes. En France, une marche pour le futur, bah ouais, parce que le futur, ça peut pas être seulement se dire, tiens, qu'est-ce que je fais pendant mes vacances et est-ce que je pourrais refaire la cuisine? Non, c'est pas ça le futur. Tiens, à noter également, la semaine prochaine, nuisances sonores et gaspillage d'énergie dans notre bonne vieille cité Cénomène avec les 24 heures moto qui auront lieu les 16 et 17 avril. Lisez bien la presse locale, vous verrez que c'est bénéfique pour la ville. Ben oui, il y aura plein de touristes qui vont venir dépenser leur pognon. On aura l'air fin quand l'air sera irrespirable avec nos comptes en banque pleins. On aurait pu vous parler des cadeaux aux copains de nos soi-disant représentants, mais comme c'est l'élection présidentielle, on attendra la semaine prochaine pour revenir sur les cabinets de conseil. On aurait pu vous parler de tartufferie à Besançon pour construire un écoquartier. Eh bien, la mairie. Ah oui, un écoquartier, à l'expression, c'est joli. Hein. C'est aussi joli que le bétonnage qui l'accompagne est mortifère. Oui, eh bien, cet écoquartier à Besançon est prévu par les autorités municipales, parce qu'il y a un plan local d'urbanisme. Alors, si la municipalité ne veut pas que ça soit bétonné, eh ben, ils font en sorte que dans le plan d'utilisation du territoire, eh bien, il n'y ait pas la possibilité de construire. Ah là, ils ont la possibilité. Oui, alors à Besançon, pour construire un écoquartier, eh bien, ça va se faire à la place de jardins ouvriers, de friches. C'est magnifique quand même. Les soulèvements de la terre appellent à reprendre les jardins de Vette. Opération qui a été entamée depuis le 2 avril où 500 personnes se sont rassemblées sur la trentaine d'hectares qui doit être bousillée pour faire une opération immobilière. C'est pas un écoquartier, c'est une opération immobilière. Ce genre d'opération qui doit rapporter a lieu dans toute la France. Alors qu'il faut, hein, et tous les écologues le disent, il faut garder des espaces verts dans les villes pour lutter contre les effets du dérèglement climatique. Et en plus, il faut garder des espaces verts dans les villes pour permettre l'autoproduction agricole en bio local. Bah, clairement, les motivations de nos soi-disant représentants ne sont pas les nôtres. Plus d'informations sur les soulèvements de la terre, c'est tout attaché, donc il y a plein de S partout, lessoulèvementsdelaterre.org. On aurait pu vous parler de déserts médicaux. Le jeudi 7 avril, une centaine de personnes s'est réunie devant la cité administrative boulevard Pexan à Le Mans, cité qui abrite la cité administrative qui abrite les locaux de la... Ouais, je suis pas mécontent, c'est marrant, c'est locaux. Non, t'es con. Allez, arrête. Donc à Pexan, boulevard Pexan, il y a la cité administrative et là il y a les locaux du coin de l'agence régionale de santé. Ces personnes étaient venues à l'initiative de l'antenne sartoise de l'association des citoyens contre les déserts médicaux qui revendique 2500 adhérents et l'UFC Que Choisir, une association de défense de consommateurs, d'usagers, ce serait mieux peut-être, enfin bon. Alors ainsi, les grilles de la cité administrative ont été redécorées de slogans comme « Tout le monde cotise, certains sont soignés, d'autres pas ». Eh ouais, comme t'es dans un désert médical, si tu veux être soigné, on te dit « Non, non, on prend plus de patients ». En effet, il apparaît que les médecins ne prennent plus de nouveaux patients. Alors à la recherche d'un dentiste ou d'un dermatologue, ça relève maintenant du parcours du combattant. Être malade, c'est là où on vit. Être médecin, c'est là où il fait bon vivre. Voilà un autre panneau qui décorait la cité administrative. Eh ben oui, en effet, les médecins sont beaucoup plus nombreux sur la Côte d'Azur que dans un département sans montagne ni mer comme la Sarthe. Et là, il était indiqué une statistique, un médecin pour 700 habitants dans le Var, un médecin pour 2500 habitants dans la Sarthe. Ouf. Alors bien sûr, dans le Var, il y a sûrement beaucoup plus de vieux, beaucoup plus de personnes malades, beaucoup plus de personnes qui sont parties mettre leurs vieux os à l'abri près de la Méditerranée. Mais il n'empêche que il y a des têtes blanches qui habitent aussi en Sarthe. Et puis, on a besoin de médecins pour les bibous, pour nous, pour le Covid, pour tout ça, pour toutes les maladies qui vont débarquer là. Alors, du coup, on a besoin de docteurs en médecine un peu partout et pas simplement là où il fait bon vivre. Des représentants de l'association de défense de l'hôpital de Montval-sur-le-Loir, anciennement Château du Loir, étaient aussi présents. C'est le genre d'hôpital de proximité dont les services ferment les uns après les autres parce que pas assez rentable aux yeux de l'ARS et donc sous-doté en personnel et en moyens. Alors, le gars qui veut même s'installer à Montval-sur-le-Loir ou à Saint-Calais, il est médecin. Maintenant, s'il va voir à l'hôpital, on lui dira, ok, on a quelques vacations, on a quelques petits trucs, on a quelques petits machins. Tu veux en vivre? Arrête tes conneries! Enfin bon. Alors, du coup, l'ARS, là aussi, a encore les moyens de faire en sorte que ces hôpitaux continuent à fonctionner. Et pas simplement les grands hôpitaux à 50 km de chez soi. Donc c'est le genre d'hôpital également dont les urgences ne sont plus assurées. De plus en plus souvent, ce qui oblige à se déplacer encore plus loin quand il y a urgence. Et on comprend le concept d'urgence dans les agences régionales de santé ou on comprend simplement la colonne recette, la colonne dépense. Ah ouais, moi j'ai fait hautes écoles commerciales, hein, je travaille pas du tout dans la santé. Voilà l'état de santé dans un pays aussi riche que la France. Le site des ARS, l'agence régionale de santé, a quand même pour slogan « Agir pour la santé de tous ». Eh ouais, ils se foutent du monde, mais qu'est-ce que vous voulez? L'important, comme disait Debord, le vrai est maintenant un moment du faux. Vous voyez, dans la société du spectacle, c'est pas ce que vous faites qui est important, c'est l'image que vous avez. Alors il faudrait peut-être essayer d'être cohérent, l'ARS, entre l'action au quotidien et les éléments de communication. Mais ça veut dire se débarrasser de cette fameuse société du spectacle. Pour contacter l'association des citoyens contre les déserts médicaux, c'est pas des foudres de guerre révolutionnaires. Hein. Non, ils veulent juste que quand ils demandent à un médecin, mon gars, t'aurais pas là une petite plage horaire? Parce que j'ai mal un petit peu partout et j'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose à faire. On vous dit non, on prend plus de patients. Ou des fois, on dit clients. Le site en question, c'est le site national, c'est désertsmedicaux.org. Désertsmedicaux.org, là aussi, il y a des S et des X partout. Et sinon, désertsmedicaux.sarthe@gmail.com. Oui, j'ai dit Gmail, ça me fait mal à la gorge, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens, ils se mettent chez Gmail, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent absolument que leur mail soit lu par Google. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Désertsmedicaux.sarthe@gmail.com. Tiens, à propos de santé, on sait depuis quelques années que la présence dans une manifestation manifestation peut entraîner des blessures graves dans le pays des droits de l'homme, tant il devient le pays des forces de l'ordre, qui ont le droit de circuler maintenant gratuitement dans les trains, c'est cool pour eux. Pour avoir une petite idée du massacre en cours, l'Observatoire des street medics, vous savez, les soignants volontaires qui assistent les manifestants lors des manifestations, eh bien, l'Observatoire des street medics a pondu un rapport sur la période février 2019-mars 2020, en particulier sur des manifestations de gilets jaunes. On y apprend que les chiffres officiels sont largement sous-évalués. Bah, le vrai est juste un moment du faux. Que la gravité des blessures est alarmante, que l'usage de la force de manière indiscriminée est alarmante, et que les passants tabassés, les gaz lacrymo envoyés n'importe où et la prise en charge des blessés semblent avoir été entravés par les stratégies de maintien de l'ordre, qui donne la part belle à la violence, à l'escalade de la violence, hein, pour montrer à l'autre, hey, t'as vu, j'en ai plus que toi, plutôt que d'essayer la désescalade. Un rapport que vous pouvez trouver sur obs-medics.org, obs-medics.org. Une nouvelle enquête montre la responsabilité de la police dans la mort de Steve Canisso. Vous vous souvenez, c'était à Nantes le 21 juin 2019. Il dansait près de la Loire. Personne n'était tombé à l'eau, personne. Et pourtant, il y avait du borracho, hein. Il était trop tard, d'après les forces de l'ordre. Personne n'était tombé à l'eau. Les forces de l'ordre interviennent, une quinzaine de personnes, et il y en a un qui est jamais remonté. Eh bien, une enquête à lire et à regarder, puisqu'il y a de la vidéo, sur disclose.ngo, D-I-S-C-L-O-S-E.ngo, un média en ligne qui change un petit peu de France Télévisions, où à part cache investigation, c'est plutôt quand même la voix de son maître. Mais finalement, nous, on a préféré vous parler d'un certain Georges Blondeau, dit GB. Georges Blondeau, il est né en 1929 dans la région parisienne, fils unique d'une famille modeste, comme on dit. Il loupe le bac et devient dessinateur industriel pour la SNCF. Il est aussi dessinateur tout court, pas que industriel, et commence à diffuser ses dessins dans La Vie du Rail et d'autres journaux avant d'intégrer l'équipe de Harakiri en 1960. Il suit la bande à Choron et Cavana dans l'aventure Charlie Hebdo dans les années 70-80 et devient même directeur de publication du Charlie Hebdo Nouvelle Mouture dans les années 90 avant la mainmise par Val. Il écrit des chansons, il écrit des sketchs pour Merci Bernard et Palace par exemple. Il écrit des romans et bien sûr, il dessine. La poésie et une certaine mélancolie de l'enfance se retrouvent dans de nombreuses planches, comme par exemple celle intitulée « Le bobsleigh de nuit » que je vous laisse découvrir. C'est magnifique. Mais la plupart des productions de GB sont aussi critiques de la société. GB pense même des utopies comme « L'an 01 ». Une dizaine de planches paraissent dans... paraît d'ailleurs, puisque c'est une dizaine de planches paraît dans Politique Hebdo, un hebdomadaire de gauche édité entre 1970 et 1978, qui aura une seconde vie éphémère en 1981. Ça paraît en dernière page. Durant une dizaine de semaines, à partir de septembre 1970, on avait des nouvelles de l'an 01. Politique Hebdo et GB vous donnent des nouvelles de l'an 01. Vous pourriez vivre en l'an 01, voit-on sur la planche. Si vous vouliez, alors vous connaîtriez par cœur le texte ci-dessous et les scènes ci contre seraient des croquis de votre vie quotidienne. Et par exemple, la résolution 1. La résolution 1, qui est donc, je lis, sur la planche, on lit. Aspiration collective prenant effet de résolution à partir du 1er de l'an 01 et applicable par accord tacite et collaboration libre de toutes les personnes vivantes ce jour et après. Résolution 1, on arrête tout. Suivent d'autres résolutions, d'autres planches, et quand la série s'arrête justement dans Politique Hebdo, après une dizaine de pages, eh bien GB nous explique la suite de l'histoire lors d'une rencontre à Montreuil en novembre 2001 à l'occasion de la diffusion dans un cinéma du film L'an 01. Parce qu'après avoir été de la BD, ça deviendra un film.
L'idée elle-même et puis une dizaine de planches ont commencé à paraître, ont été publiées par Politique Hebdo de l'époque, 70 par là. Et ça a déclenché un intérêt et une demande. Les gens ont dit, mais on voudrait connaître la suite, on voudrait que ça s'étoffe. Donc je l'ai continué en feuilleton dans Charlie Hebdo. C'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est qu'il y a eu la même ferveur lorsque le film est sorti, les salles étaient pleines. Les salles qui nous ont accueillis. Mais par exemple, le film ayant beaucoup de succès dans les salles qui appartenaient à des distributeurs indépendants qui avaient mis un petit peu d'argent pour faire le film, des distributeurs se sont dit bon, c'est le bon coup, on va le sortir dans des grandes salles sur les Champs-Élysées. Avec Doyon, on a refusé de sortir sur les Champs-Élysées. C'était pas notre truc, c'était pas l'an 01, c'était les salles des Champs-Élysées, elle n'avait plus qu'à fermer après un film.
Donc, après la parution dans Politique Hebdo, c'est dans Charlie que ça continue. Et voilà qu'avec Jacques Doyon, Alain Resnais et Jean Rouch, GB fait un film de l'an 01 qui est diffusé en 1973. Le film reprend les idées de la BD. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Premièrement, il faudrait faire un pas de côté. Tiens, ben, extrait du film.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté? Si on essayait autre chose? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets. Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats. Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul. Si on faisait un pas de côté, au lieu de sonner chez soi, on sonnerait chez le voisin. Et si on échangeait nos papiers d'identité? Et si on arrêtait tout?
Et voilà un pas de côté pour un changement de point de vue. La tête dans le guidon en permanence nous amène à ne plus chercher à savoir si nos actions au quotidien sont sensées. Cette perte de sens, d'ailleurs, était déjà conscientisée dans les années 70. Souvenons-nous quand même de l'effervescence intellectuelle autour de mai 68. Extrait d'une interview de GB pour le journal télévisé de la première chaîne, qui n'appartient pas encore à l'oligarque français Bouygues, à l'occasion de la sortie du film L'An 01 en 1973.
Il suffit d'ouvrir un journal ou la télé pour s'apercevoir que la course au progrès nous mène tout simplement à la catastrophe. On est en train de détruire la terre, l'environnement, et ça ne mérite plus qu'on s'y dévoue et qu'on y sacrifie nos vies. Et ça, c'est vraiment dans l'air, mais c'est pas nettement formulé. Nous, on a fait un film pour le formuler nettement.
GB, là, nous parle de quelque chose qui est vraiment dans l'air, mais qui n'est pas formulé clairement. Eh bien, il revient sur cette époque, les années 70, lors de la soirée de présentation du film en 2001 à Montreuil.
J'ai l'impression que le film a été fait par les gens qui ne se contentaient pas de la vie qu'ils avaient à l'époque. Ce film s'est fait, et on leur a montré, ils ont dit « oui, c'est vraiment ça qu'on veut voir, et c'est ça qu'on aimerait vivre, en fin de compte. » Et il s'en est fallu peu qu'on le vive, d'ailleurs, parce que c'est ça qui paraît inimaginable. Je veux dire, le film peut paraître intéressant, drôle. Maintenant, être comment le témoin d'une époque, mais ce qu'on a du mal à dire, à comprendre si on l'a pas vécu, c'est que ça paraissait pas une utopie. Pour les gens qui le voyaient, ils se disaient que c'était partie remise, mais que dans quelques temps, ça allait se faire vraiment. Peut-être pas sous cette forme-là, mais que tout au moins, il allait y avoir un bouleversement majeur, quoi. Une grande rupture. Et donc, cette aspiration de vivre autre chose ensemble que ce qu'on nous condamnait à vivre, quoi. On disait adieu à plein de choses. On était prêts à vivre autrement. Les gens des banques disaient c'est une rigolade de travailler dans les banques. Bon, c'est fini, ça va. C'est des choses dont on n'a plus besoin. Ça va s'étioler et on fera autre chose. Il y avait un rêve collectif fantastique. À l'époque, c'était quand même extraordinaire. Il y avait des grands industriels qui se réunissaient. C'était le Club de Rome, des gens qui étaient responsables des grandes industries multinationales qui se réunissaient en disant « mais où nous mène une croissance exponentielle au désastre ?» Et ils militaient pour la croissance zéro, avec des choix de production. C'est inimaginable maintenant, alors que n'importe quel industriel veut produire de plus en plus et jeter de plus en plus de ses merdes sur le marché et les vendre ailleurs et surtout investir le Japon et en vendre en Corée, etc. Et à l'époque, il y avait une réflexion sur le temps de travail. Il y avait des bouquins faits par des universitaires qui disaient 2 heures par jour. Et c'était un début. Et ils prouvaient que c'était possible. Que pour satisfaire nos besoins, même assez largement, et continuer d'inventer, de faire de la recherche, 2 heures de travail par jour, c'était largement suffisant.
Largement. Dans cet extrait, GB parle du rapport Meadows, le rapport du Club de Rome, traduit en français sous le titre « Halte à la croissance », on se souvient pas, mais parce que justement, il y a des mémoires qu'on ne veut pas avoir. On ne se souvient pas des débats dus à la lettre de Sico Mansholt, qui est un politicien néerlandais, membre du Parti travailliste, et alors commissaire européen à l'agriculture. Et dans sa lettre, il soutient l'idée du rapport Meadows du zéro croissance. Et qui devient, lui, Sico Mansholt, président de la Commission européenne de mars 72 à janvier 73. Donc on a pu le voir dans des colloques, on a pu le voir à la télé, on a pu voir des gens encravatés en train de dire « bah ouais, faut arrêter les conneries ». Faut déjà arrêter les conneries. On est dans au début des années 1970. Les idées défendues dans l'an 01 parcouraient la société. GB en donne une forme concrète. Tout d'abord, eh ben on arrête tout. Et dans le film, ça se passe un mardi à 15h. D'ailleurs, les autorités décident de réagir à 14h40 le fameux mardi.
Au cours de la conférence de presse qu'il a tenue ce matin, monsieur le ministre de l'Intérieur s'est adressé solennellement aux Français. « Je vous adjure, a-t-il dit, de renoncer à toute action de caractère irréfléchi qui ne pourrait que précipiter le pays dans le chaos et le conduire à sa ruine. Français, Françaises, ce n'est qu'un vertige. Ressaisissez-vous. » Fin de citation. Dans de très nombreux pays, des proclamations analogues ont été lancées. En ce qui nous concerne, nous tenons à préciser qu'à partir de 15h, aucune déclaration émanant des milieux provisoirement officiels ne sera plus diffusée sur nos antennes. Ce qui revient à dire que vous n'entendrez plus jamais ni un ministre, ni un président, ni un directeur de quoi que ce soit. Plus que 20 minutes.
Bon, on s'en pensera de ces gars-là. Hein. Mais c'est les malfrats.
Bon, ben voilà, c'était clair. Alors, le message était écouté par des routiers dans une cabine de camion. Et à un moment, ils se le disent, qu'on s'en passera. Bah, forcément qu'on peut s'en passer, parce que on n'a pas besoin de gens pour nous dire comment faire fonctionner une société, puisque ce sont les gens qui la font fonctionner, cette société. Et justement, donc, suivent plusieurs résolutions dans la première planche dont je vous ai parlé tout à l'heure de chez Politique Hebdo, pour les nouvelles de l'an 01. Après le « on arrête tout », eh bien, il y a la résolution 2. Après un temps d'arrêt total, ne seront ranimés avec réticence que les services et les productions dont le manque se révélera intolérable. Probablement l'eau pour boire, l'électricité pour lire le soir, la TSF pour dire ce n'est pas la fin du monde, c'est l'an 01, et maintenant une page de Mécanique Céleste. Bon voilà, ça c'était le genre de message qu'on pourrait entendre sur la radio, un TSF, télégraphie sans fil. La résolution 3, les individus ne consentant plus à déléguer leur pouvoir, toutes les formes d'autorité, ainsi que les hiérarchies de toute nature perdront leur emprise avec leur raison d'être, très naturellement et sans douleur. Résolution 4, le temps d'arrêt sera mis à profit par tous pour acquérir la somme des connaissances recensées au premier de l'an 01, somme considérée comme indispensable pour pouvoir décider de la suite et du cours à donner en toute logique aux actions collectives futures. Résolution 5, parallèlement à l'ingestion de l'acquis, la réflexion créatrice s'efforcera de définir des objectifs cohérents susceptibles de justifier la remise en route du bazar. Le bazar étant les usines, les laboratoires, etc. Avec abandon pur et simple des activités néfastes et non reconvertibles, comme l'armement, sans doute. Et résolution 6, pendant toute la durée du temps d'arrêt, 5 ans, point d'interrogation, 20 ans, point d'interrogation, le bazar sera soigneusement maintenu en état de marche. Et dans une des cases, eh bien, les personnages sont en train de graisser des machines. Et il y en a un qui dit, et vous croyez qu'à l'Élysée, ils graissent Pompidou pour pas qu'il rouille? Eh oui, ça sera l'occasion de se marrer un petit peu. Le bazar en état de marche, l'idée n'est surtout pas de casser pour tout refaire, mais bien de profiter d'un temps pour réfléchir et enfin décider collectivement de l'utilisation des biens et services. Dans un roman intitulé « Sept cartouches », paru chez Hachette en 1982, GB décrit une autre utopie, en l'occurrence le Losange, avec un Z, un territoire arraché à 5 États par des populations qui en ont marre de la société comme elle marche, et surtout comme elle ne marche pas. Voilà un extrait du discours d'ouverture prononcé par le délégué numéro 1 de la Fédération, les gens qui se sont mis ensemble pour essayer justement de ne plus vivre de la manière dont on veut nous faire vivre, à savoir gagner sa vie et perdre sa vie justement à la gagner. C'est donc le délégué numéro 1 de la Fédération qui fait un discours lors de la première des 1000 séances de négociation au terme duquel naquit le Losange. Je cite. Nous sommes ici pour convenir des modalités de reconnaissance par vos 5 gouvernements d'une fédération d'individus souverains et de la donation en toute propriété à cette fédération d'un territoire autonome. Sur le territoire s'installeront les individus fédérés actuellement répartis dans vos 5 nations et dépendants d'elles, citoyens dont les aspirations ne s'accommodent plus des objectifs puérils assignés à l'homme par vos sociétés. Ces objectifs puérils visent à l'élévation d'un produit national brut par l'écoulement marchand d'une production pléthorique, anarchique et forcenée dans des structures économiques nationales toujours plus contraignantes et dans un contexte international où les lois de la concurrence imposent le recours grandissant à l'intimidation, à la menace, à l'hypocrisie diplomatique, à l'exploitation des plus faibles, à la terreur en équilibre ou non, eh oui, le fameux équilibre de la terreur, et à la guerre. Votre clientèle primaire est maintenue telle par vos méthodes éducatives et informatives, s'accommode de ses buts primaires et en accepte les contreparties néfastes et mortelles. Mais nous, individualistes fédérés, nous, insurgés de l'esprit à la perception élargie aux dimensions de l'univers et de la durée intemporelle, nous déclarons que cela n'est plus supportable pour nous. C'est pourquoi nous revendiquons d'une part notre indépendance, d'autre part un territoire sur lequel nous puissions nous consacrer sans restriction à la mise en valeur d'une richesse spécifique dédaignée par vos systèmes, c'est-à-dire l'intelligence. Une suffisance matérielle assurée par une exploitation sans profit monétaire des ressources naturelles, à l'aide d'une technologie non asservie par la rentabilité, nous permettra de créer les conditions favorables à l'exercice de la connaissance. Permettra de créer les conditions favorables à la pratique de l'extravagance poétique génératrice d'espace favorable à l'épanouissement et aux fulgurances de l'imagination. Favorable, comme on le dit, des vents au grand départ pour la découverte des nouveaux continents de l'esprit. Nous savons que vous taxez nos revendications de folie, d'utopie, d'idéalisme décadent. Vous savez déjà que vous devrez passer traité avec cette folie, cette utopie, cet idéalisme décadent. Nous sommes ici par la volonté de nos neurones, nous n'en sortirons qu'avec vos signatures. Voilà donc l'extrait du discours dans cette cartouche de ceux qui ont décidé de se fédérer. En l'occurrence, ils ont décidé là encore de tout arrêter puisque les buts puérils des sociétés, en l'occurrence l'augmentation du produit national brut, ouais, le produit intérieur brut, c'est un peu la même, eh bien, leur paraissent totalement insupportables. Et donc, le roman se poursuit comme suit. Les représentants des 5 nations, contrairement à la presse de l'époque, passionnés, déchaînés et déchirés, refusèrent obstinément le débat d'idées. Avec une détermination hargneuse, boudeuse et rancunière, ils circonscrirent la négociation sur le terrain strictement juridique et politique. Tout au long des discussions fleuves, ils regardèrent les délégués de la fédération comme des anarcho-libertaires zinzins, dont seule la force du nombre était à considérer et obligés aux accommodements extrêmes. En se résignant à amputer leur patrie d'un morceau de territoire, ils n'agirent pas autrement que les chirurgiens mettant en œuvre les ultimes ressources de leur art pour stopper la gangrène, le couteau et la scie. Les 5 morceaux d'origine composant les nouveaux états du losange étaient constitués de massifs montagneux, boisé, de pâturage, bien arrosé, par des rivières de modeste débit mais nombreuses, des villages disséminés, de bourgs reliés par des routes étroites, de peu de villes, et toutes de médiocre importance. Les populations autochtones, de très faible densité, bien informées par la fédération, restèrent parmi leurs troupeaux, leur culture, leur artisanat, leur commerce, avec leur occupation, leurs affaires, dans leurs maisons. Sur cette base infrastructure, le losange bâtit ses villes avec prudence et élégance, fouilla précautionneusement le sous-sol, faufila son industrie et ses voies de communication avec astuce et mesure, jeta son réseau quasi invisible de liaisons entre tous les citoyens pour faire circuler le sang électronique de la démocratie directe. Le losange privilégia l'instruction permanente pour tous les âges, faisant de chaque entrée d'école le portique de la prise de conscience et la prise de conscience le préalable de tout. Des citoyens fédérés qui veulent cultiver l'intelligence, comment ça va se dérouler? Eh ben, on verra ça la prochaine fois. Rappel, une marche pour le futur le samedi 9 avril à 14h30, place de la préfecture. Venez nombreux, ouais, le futur, ça concerne tout le monde. Ah oui, je sais, on est samedi après-midi pour les auditeurs du direct. Il y a sûrement des bonnes affaires à faire dans les hypermarchés, dans vos hypermarchés préférés. Mais je sais pas si acquérir des choses peut nous permettre d'avoir le bonheur. Souvenons-nous que c'est surtout des achats de compensation à une vie qui n'est pas organisée par nous, pour nous, et pourtant, ça s'appelle une vie soi-disant démocratique. Tiens, à ce propos, il paraît qu'il y a un vote. Allez, je vous dis quoi ? Bah, tout simplement, au revoir.
Mmh.